Chers amis, bonjour.
Le Centre chrétien évangélique d'Andrézieux a le plaisir de vous faire écouter des conférences publiques de différents pasteurs.
Ces messages ont été en bénédiction pour un grand nombre d'auditeurs et nous espérons qu'il en soit de même pour vous.
Vous pouvez venir écouter ces prédications en direct tous les dimanches à 10h et 16h30, ainsi que les mardis à 20h à l'adresse suivante.
Centre chrétien évangélique d'Andrézieux, 4 bis boulevard Jean Jaurès, 42160, Andrézieux-Boutéon.
Si vous désirez écouter d'autres conférences, vous pouvez les commander soit au comptoir de notre librairie, soit par téléphone au 04 77 36 67 45, en laissant sur notre messagerie vocale vos coordonnées et les numéros des conférences désirées.
Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente écoute.
Allons continuer donc notre étude sur Élisée la Tsunamite que nous avions commencé déjà depuis quelque temps. Voilà. Et ce soir, nous allons voir ensemble que servir Dieu est une véritable source de bénédiction. Et que Dieu a prévu vraiment des choses extraordinaires. Alors on reprend le deuxième livre des Rois, chapitre 4, le verset 8, et puis ce coup-ci, on va lire un peu plus que ce que nous lisions d'habitude. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier ou une lampe, un luminaire, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Gehazi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite !» Gehazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Gehazi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Gehazi répondit, « Mais elle n'a pas de fils, son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Gehazi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, « Amen. » Nous avons vu plusieurs choses concernant donc ce texte. Nous sommes arrêtés sur les différents versets. Nous avons vu, oui, l'hospitalité de ce couple. Nous avons ensuite détaillé ce qu'il y avait au niveau de cette chambre haute. Et nous avons vu que la chambre haute était la recherche de la communion avec Dieu. Nous avons vu que cette chambre avec des murs, vas-y, fais passer l'écran là. Avec des murs, c'était la sanctification. Nous avons vu le lit également qui était dans la chambre, qui nous parle d'équilibre en toutes choses. Vie personnelle, vie familiale, vie de couple, consécration avec Dieu. Et puis nous avons vu également une table qui était dressée, c'était l'image et le travail, l'image de la Sainte Seine également, de notre relation, de ce que Christ avait accompli pour chacun d'entre nous. Nous avions vu également qu'il y avait un siège et que c'était notre position de cœur devant le Seigneur, mais également notre position spirituelle en Christ, comme la Bible nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc une position vraiment de victoire en Jésus-Christ. Et puis nous avions vu également qu'il y avait un luminaire, puisqu'il est traduit chandelier, mais les chandelles n'existaient pas. Donc c'était là, en tout cas, ce qui nous intéressait, une source de lumière. Et nous avions vu que Christ est la lumière du monde, et que quand nous l'acceptons dans notre vie, il fait de nous aussi la lumière de la plaine du forêt. Alléluia! Et nous pouvons par cela même, eh bien, témoigner aux hommes et aux femmes de ce que Christ a accompli dans notre vie. Ce que nous aimerions, enfin ce que j'aimerais voir ce soir avec vous, c'est ce qui a motivé ce couple à être hospitalier, à donner tant d'empressement à vouloir servir Élisée. Ce qui m'intéresse de voir, c'est pourquoi cet homme et cette femme ont fait tout cela. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur? Pourquoi ils étaient aussi motivés? Et surtout, quelle en a été la conséquence? Qu'est-ce qu'ils ont pu recevoir de Dieu à cause de leur empressement et de ce travail? Alors premièrement, pourquoi ce couple a-t-il fait tout cela? Qu'est-ce qui les a motivés? Je crois que ce qui les a motivés dans un premier temps, c'est ce profond désir et sincère de servir le Seigneur, de servir Dieu. La Bible nous dit qu'ils le font de tout leur cœur pour Élisée. C'est leur manière à eux ici de servir Dieu, de s'engager dans ce travail. Je dirais que quelque part, ils ont investi dans l'œuvre de Dieu. Ils ont investi dans ce qu'ils croyaient être pour eux leur service, leur travail, leur responsabilité. Et je crois que cela nous parle également, parce que nous aussi, nous avons besoin d'investir. Bon, je sais qu'il fait chaud et que il fait 31 ici sur l'estrade, et que certainement il fait encore très chaud, mais en enfer il fait encore plus chaud sûrement. Réjouissons-nous de ce que Dieu nous donne chaque jour. On a besoin aujourd'hui encore d'investir. D'investir dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu a besoin d'investisseurs. Parce que lui est un investisseur. C'est même le plus grand des investisseurs. Et il sait dénicher les bonnes affaires. Il sait dénicher là où il va pouvoir utiliser un homme et une femme pour sa gloire. Et c'est vrai que il n'agit pas comme le monde agit aujourd'hui. Nous, on regarde avec un CV aux aspirations extérieures, aux présentations extérieures, à ce que la personne peut laisser paraître. Et puis, on va juger ensuite. Et bien sûr, s'il y a là de bonnes qualités, on va prendre. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que lui n'agit absolument pas comme ça. Il ne se retient pas et il ne se fixe pas uniquement avec ce qui est apparent. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est quand il te voit aujourd'hui, il pense déjà à 10 ans plus tard. Quand il voit entrer quelqu'un qui semblerait avoir les cheveux jusqu'ici, les boucles d'oreilles de partout, les clous dans tous les côtés, les couleurs un peu partout, etc. Nous, au départ, peut-être, on est un peu étonnés, on va regarder ça un petit peu de travers, on va se dire, ouh là 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 là, celui-là, il n'est pas prêt de servir Dieu. Celui-là ou celle-là, je me souviens un jour, on était dans Lyon, et à l'église sur Lyon, et à l'époque, il y avait une grande église là, et tout le monde est bien habillé le dimanche, tout le monde a sa cravate, sa chemise bien lavée, bien propre, le parfum, on en met partout, tout ça, enfin c'est vraiment formidable, et je préfère sentir le parfum qu'autre chose des fois, hein. Mais en tout cas, c'est pour vous donner un petit peu l'image, c'est très très bien habillé, tout ça, ils sont pas comme ici, nous on n'a pas mis la cravate, rien, mais là-bas, même quand il fait chaud l'été, ils mettent la cravate, ils sont bien habillés, mais ils ont la clim là-bas, et alors ça change tout déjà, hein. C'est juste pour que ça rentre dans votre esprit petit à petit, ça. Et alors, à un moment donné, l'après-midi, il y avait un monde fou, etc. Et puis, d'un seul coup, on entend la porte qui s'ouvre en pleine réunion. Et là, il y a une femme qui rentre. Et c'est pas une mini-jupe qu'elle avait, c'était, on va dire, une ceinture large. Et alors, elle vient comme ça, elle passe dans la rangée, elle commence à se... Ben, j'essaye de vous limiter, mais c'est pas... Imaginez, hein, parce que... Et alors elle passe dans la rangée comme ça, là, et alors bien sûr, on voyait toutes les cuisses, les talons comme ça, et puis en haut, je vous dis pas, hein, si en haut, en bas, c'était une ceinture large, en haut, c'était très serré aussi. Et alors tout le monde était là, choqué presque, il se demandait, et c'était une prostituée qui était dans les coins de Lyon, là, et qui avait entendu parler qu'on faisait des réunions d'évangélisation, que sa vie pouvait changer, etc. Mais ce qui m'a marqué, c'est la réaction des personnes. En voyant cette femme entrer, en voyant, c'est vrai, son dénuement, mais tout de suite, on s'est arrêté à l'apparence. Sa coiffure excentrique, et puis tout son maquillage, et tout ce qu'il y avait sur cette femme. Et moi, je suis convaincu que Dieu voyait cette femme comme elle entrait dans sa nature, et avec ses habits, et telle qu'elle était dans sa prestance, mais il voyait déjà son cœur, et il voyait déjà ce qu'il allait pouvoir faire avec cette femme dans 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans plus tard. Parce que Dieu investit dans les vies. Et il cherche des vases qui sont vides afin de les remplir. Il cherche des hommes et des femmes qui sont vides de ce monde parce qu'ils n'ont plus rien à trouver dans ce monde, parce qu'ils ont tout vécu dans ce monde. Ils en sont dégoûtés. Elles disent, mais c'est ça ou je meurs. Et Dieu aime ces hommes et ces femmes et il les cherche et il les trouve. Et il les remplit de sa présence, de son esprit, de sa vie abondante. Et la vie de ces femmes, de ces hommes change, sont transformées complètement. Et ils peuvent alors servir Dieu de tout leur cœur avec un grand empressement. C'est bon de voir ce que Dieu fait. Et nous devons apprendre nous-mêmes à investir dans l'Église de cette manière-là. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas simplement d'argent. Je parle de cet investissement dans les personnes, cet investissement en temps. La formation que nous faisons, que nous avons démarré depuis plusieurs mois, c'est de l'investissement. On investit, c'est vrai. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a l'impression que ça ne rapporte pas beaucoup. Mais j'investis pour que demain, je ne sois plus tout seul à agir dans tel et dans tel domaine, mais qu'on soit 2, 3, 4, 5, 10, 15. Et pourquoi beaucoup plus pour toi ? Parce que Dieu a des projets. Et Dieu investit de cette manière-là pour aller plus loin. Lorsque nous investissons dans le service de Dieu, Dieu fait alors fructifier notre investissement. Et notre seule motivation dans le service de Dieu, ce doit être de le faire uniquement pour lui. C'est la seule motivation que nous devons avoir. Paul dit aux Colossiens, « Tout ce que vous faites, faites-le en rechignant, en murmurant, en vous plaignant. » Non, faites-le de tout votre cœur, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors qu'est-ce que va faire Élisée ? Il voit tout cet empressement de ce couple qui les bénit, qui leur fait du bien. Et si vous saviez comme c'est bon de vivre ça. On a été logé pendant une semaine à Pau et on avait demandé à loger chez des chrétiens à côté, mais on était comme des rois. Comme des rois. D'ailleurs, le dimanche, on a tellement mangé, j'étais obligé d'aller me coucher une heure, je ne pouvais plus partir. Et puis, il ne fallait pas les vexer. Il me dit, mangez, mangez, mangez. Oui, oui, mais... Alors, j'en refile à ma femme un petit peu. Elle a besoin de manger, elle aussi. Mais on était vraiment reçus. Ils ont mis de l'empressement à nous accueillir. Pourtant, on rentrait à 1h30, 2h du matin, le soir. En plus, on ne voulait pas faire de bruit, mais bien sûr, ils n'avaient pas un chien, ils n'avaient pas deux chiens, ils avaient trois chiens. Un chat. 20 canards, vous imaginez un peu la basse-cour. Alors quand on rentrait, ça, on ne faisait pas de bruit, tout ça. Et le chien, il ne nous connaissait pas bien, il commençait à aboyer, c'était 2h du matin. J'ai dit, chut, tais-toi, tais-toi. Et plus tu disais tais-toi, et plus il criait. J'ai dit, ça va. J'ai dit, les pauvres, on a dû vous déranger, tout ça. Mais non, c'était vraiment un désir, une volonté et un véritable plaisir pour eux de faire. Parce qu'eux, ils savaient qu'ils allaient faire parce qu'ils le faisaient pour le Seigneur. Et ils allaient en recevoir des bénédictions. Et Élisée, c'est ce qu'il va chercher. Et c'est très étonnant ce qui va se passer maintenant. Il va chercher un moyen de bénir cette femme, de bénir cet homme, de bénir cette famille. Et c'est assez particulier parce qu'il dit, tout cet empressement, c'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant ? Et là, au verset 13, il dit, est-ce qu'il faut que je parle de toi au roi ? Est-ce qu'il faut que je parle de toi au chef de l'armée ? Est-ce qu'il faut que je parle de toi à un responsable ? Tu as besoin de quelque chose en particulier ? Vous voyez, déjà à l'époque, les tuyaux, ça marchait bien. On se faisait pistonner pour... C'est vrai que c'était la mentalité, c'était la coutume de l'époque. Ça fonctionnait comme ça. On invitait la personne pour manger, pour boire. On lui faisait un bon festin. On l'invitait une fois, deux fois, des fois plus, avant de lui demander quelque chose. D'ailleurs, dans le domaine commercial, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Moi, j'ai travaillé pas mal de temps en entreprise et c'est vrai qu'on fait souvent un peu ce genre de choses aussi, hein. Mais on a les exemples dans la Bible. Regardez Esther, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther ? Avant de parler là, et c'était même le roi qu'elle invitait, son mari. Quel honneur ! Elle l'invite, mais avant de parler de cette situation difficile de ce peuple, à deux reprises, elle fait un grand festin, un grand repas, etc. Et c'est après qu'elle va pouvoir... aborder cette situation et partager cette difficulté, faire sa demande. Cette femme à qui Élisée s'adresse va être étonnante dans son attitude. Elle aurait pu être de ceux qui auraient dit « Non, non, je vais inviter Will prophète, je vais le faire manger, je vais lui offrir des présents, puis ensuite je vais lui donner ma requête. Je vais essayer de l'amadouer d'une certaine manière, et puis je vais essayer ensuite de faire passer ce que j'ai besoin de lui demander. » C'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça, il y a toujours des attitudes de personnes qui agissent de cette manière-là. Même parfois, il faut le dire, des croyants, des chrétiens qui agissent ainsi vis-à-vis d'autres frères et sœurs. Vis-à-vis même des fois des anciens, des pasteurs. Ils les invitent régulièrement, ils leur font même des cadeaux, ils les soignent, etc. Quand c'est fait gratuitement, de tout cœur, pour Dieu, c'est bon. Mais quand c'est fait dans un état d'esprit d'obtenir quelques faveurs de plus, d'obtenir quelques grâces, un peu plus de bienveillance, par, je dirais tout simplement, motif d'intérêt, ça, c'est malsain. C'est malsain et ça n'apportera jamais la bénédiction. Ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur, et pour lui, et uniquement pour lui. Et il est dit, pas pour les hommes. Nous le faisons parce qu'il y a des fois besoin de donner, d'apporter, et il est bon entre nous de pouvoir partager, de pouvoir s'offrir, de pouvoir faire un certain nombre de choses. C'est bon, mais avec un bon état d'esprit. Sinon, le reste est un piège dans lequel nous pouvons tomber, les uns et les autres. Mais que Dieu nous en garde, parce que les conséquences sont graves. Pourquoi ? Parce que quand vous commencez à avoir une certaine forme d'affinité, votre jugement n'est plus le même. Vous n'êtes plus objectif, vous n'avez plus la même vision, vous n'avez plus la même objectivité. Et pour juger une certaine situation, il n'y a parfois plus la même équité. On ne voit plus la justesse telle que Dieu la voit. Or, Dieu nous demande aux uns et aux autres d'être justes, purs, vrais, équitables, sincères. Nos affinités, et nous pouvons en avoir, mais elles ne doivent jamais influencer notre justice et notre droiture. Jamais. Sinon, vous faites ce que la Bible dit, vous couvrez, vous cachez le péché de l'autre. Donc vous êtes aussi coupable que l'autre devant Dieu. Nous n'avons pas le droit de cacher. Nous devons, malgré nos affinités et notre amour, l'ami nous dit, si tu aimes ton frère, alors tu lui dis que tu as péché, afin qu'il se repente. Et qu'alors, eh bien, il puisse se trouver dans une situation où il va pouvoir recevoir de nouveau la grâce, la miséricorde et le pardon du Seigneur. Que Dieu nous garde dans cela. Et je crois qu'il nous faut continuer à apprécier ce qui est fait dans la communion fraternelle, l'hospitalité, le soutien mutuel, l'acceptation mutuelle, l'aide, les dons, etc. Mais il faut toujours garder la liberté de se dire la vérité. Parce que autrement, on entame notre communion fraternelle, notre partage, et après, nous n'avons plus la même attitude. Si nous agissons comme ça, nous sommes alors conduits et dirigés par nos sentiments, nos émotions, et notre jugement, par conséquent, n'est plus juste. Mais cette femme-là, elle a un bon état d'esprit. Et vraiment, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie, parce que elle veut servir Dieu. Elle veut marcher avec le Seigneur. Et dans sa réaction, on va se rendre compte qu'elle ne se place ni au-dessus, ni au-dessous des autres. Mais elle se considère tout simplement comme une femme du peuple. C'est vrai que c'est un danger pour chacun de nous de nous élever par nos pensées, par nos idées, de nous élever par notre activité que nous pouvons pratiquer dans l'Église, même de s'élever par une apparence d'humilité. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10:31, « Quoi que vous fassiez, et un peu plus loin il est dit, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors nous ne nous élevons pas nous-mêmes. Parfois on en voit certains qui travaillent plus pour leur propre gloire que pour la gloire du Seigneur. Et c'est vrai que c'est un piège là encore que le diable nous tend, dans lequel nous pouvons tomber. Mais Paul va dire aux Colossiens, servez Christ, parce que c'est lui le Seigneur. Et il est dit, celui qui agit injustement, il recevra selon son injustice. Parce qu'il est dit, il n'y a pas de favoritisme. Au verset 23, il a dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, on l'a lu tout à l'heure, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et il est dit plus loin, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ce que nous faisons, pour Dieu. Et ce couple est humble. Il sert Dieu de tout son cœur. Leur démarche est pure. Et c'est là que doit être notre attitude également entre nous. Parce que c'est là alors que nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. J'ai remarqué parfois, quand on va dans des conventions, quand on va des fois dans des retraites spirituelles, comme au Coteau-Fleury et ailleurs, quand on a par exemple le désir de servir Dieu, de marcher avec lui, on aime bien des fois rencontrer des hommes de Dieu qui sont déjà sur l'estrade, qui sont déjà implantés dans le ministère depuis des années et qui prêchent l'évangile et qui pourraient nous aider, nous enseigner et qui, pourquoi pas, de temps en temps, nous forcer quelques portes pour... Et parfois, quand on est dans des moments comme ça, quand on a des grands prédicateurs, on voit des choses formidables se passer, on a un désir humain d'aller voir et trouver la personne pour essayer de parler, pour essayer de dire, pour essayer de faire. Alors ne confondez pas, on peut avoir des fois des moments très bien de partage, de discussion avec des personnes. Mais encore une fois, tout dépend de ce qui nous motive. Et je sais qu'il y a eu des moments où j'ai rencontré des hommes de Dieu, même des pasteurs internationaux, et qui, à l'époque, on a eu l'occasion de parler, etc. Et puis, vraiment, qui m'ont encouragé, qui m'ont fortifié. Et puis, il y a eu des moments où j'avais, moi, envie d'aller en trouver quelques-uns. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, ça. Et comme par hasard, c'était difficile. Et soit il y avait trop de monde, soit ça ne pouvait pas se faire pour X raisons, soit quand ça se faisait quand même, finalement, les réponses ou les paroles qui m'étaient données ne correspondaient pas à ce que j'attendais, etc., etc. Je crois que Dieu connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Et quand dans notre cœur, il y a de mauvais mobiles, des intérêts qui ne sont pas bons, on n'en reçoit pas la bénédiction. Mais combien j'ai vu des fois où il n'y avait pas d'intérêt parce qu'il y avait une totale confiance en mon Seigneur. Dieu m'a ouvert des portes et je me suis trouvé face à face dans des situations. Je me souviens cette fois où je me trouvais à Toulouse, c'était, quelques temps que je m'étais converti. Et ça a été pour moi une source véritablement de bénédiction. J'ai vécu là une expérience extraordinaire. Et le frère qui était avec moi, certains le connaissent, c'était Eugenio Jiménez de Porto Rico, un évangéliste international, vraiment un homme de Dieu extraordinaire. Il doit avoir plus de 75 ans maintenant. Mais il a une pêche extraordinaire aussi. Et j'étais jeune converti et on me dit, tiens, on a besoin de quelqu'un lundi pour partir. J'étais à Toulouse, on devait l'amener à Barcelone. Et il avait besoin qu'on aille au consulat. Il avait besoin de faire signer ses papiers, c'est de récupérer un passeport, etc., etc. Et moi, tout de suite, j'ai dit, ouais, moi, je suis libre, pas de problème. Il n'y a pas de souci, je l'amène. Vous savez, quand on est jeune converti, on est disponible, on a envie de travailler pour le Seigneur, on a... Oui. Et donc, il y avait ça qui brûlait dans mon cœur, et je ne voulais pas rater cette occasion. Et puis, bon, il y avait d'autres jeunes qui voulaient descendre, et il y avait un autre jeune derrière qui s'appelait Emmanuel, comme moi, et puis un autre garçon également. On est descendus tous les quatre. On n'a pas mis longtemps, c'est moi qui conduisais. J'avais une voiture, elle s'appelait Fuego. Et lui disait El Fuego, hein. Mais le feu est réellement descendu sur la voiture. Et ça, ça a été une expérience. Il s'en souvient encore. Il en a témoigné cet été quand il était à Gap. Il en a témoigné encore. Il a dit, c'est l'expérience la plus forte que je n'ai jamais vécue de toute ma vie. Et pourtant, ce gars, des expériences avec Dieu, il en a vécu quelques-unes, hein. Quand vous regardez son visage, il est tout humifié, il a des crevasses de partout parce que c'est un gars qui, dans les évangélisations, lui a balancé de toutes sortes de produits inflammables sur la figure pour l'arrêter de prêcher, etc. Enfin, il a vécu des choses extraordinaires. Ce jour-là, on prend la voiture, on part, on est sur l'autoroute et on roule tranquillement. Et alors, lui, il est toujours en communion avec Dieu. Et on commence à prier, on commence à chanter. Alors qu'on avait déjà fait plusieurs centaines de kilomètres sur l'autoroute, hein, à un moment donné, on a commencé à prier, à louer le Seigneur. Et on a senti la présence de Dieu venir dans la voiture. Mais une présence de Dieu telle. J'avais des fourmillements de partout. J'étais obligé de m'arrêter sur l'autoroute. Moi qui m'arrête jamais. J'étais obligé de m'arrêter. On s'est mis sur le bas-côté, sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, je ne sais plus pendant combien de temps. mais il y avait l'onction de Dieu, il y avait une présence de Dieu, il y avait une bénédiction extraordinaire qui était là, et ça, ça a marqué mon cœur de jeune converti. Je savais que Dieu existait, je savais que Dieu était vivant, je savais qu'il était mon sauveur, je savais qu'il était mon Seigneur, je savais qu'il était capable de faire de grandes choses, je savais qu'il était capable de guérir des malades, de ressusciter des morts, mais de vivre une telle expérience, ça a conforté ce qu'il y avait dans mon cœur. Je me suis attaché à cette, non pas à cette expérience, mais à ce Dieu réel, vivant, qui agissait et qui nous accordait, par cette occasion, une grâce extraordinaire de le découvrir, de le connaître davantage. Lui-même disait, c'était la première fois et la dernière fois qu'il a eu une telle visitation et une telle présence de Dieu dans ce véhicule. Le fait, si, j'ai réfléchi après, j'ai dit, si j'avais dit non, et si j'avais eu autre chose à faire, ça aurait pu arriver aussi. Mais à l'époque, il n'y avait rien qui pouvait me faire, même le travail, n'importe quoi. Je dis non, il y avait un besoin. J'avais envie. Je sentais que c'était là ma place. J'y suis allé. Et Dieu a béni. Il ne faut pas rater les occasions. Il y a des occasions dans notre vie, parfois, qu'on rate. Mais quand on les rate, c'est fini. On ne pourra pas revenir. Cette expérience-là, et je ne vous invite pas à la vivre parce que c'est personnel, c'est, on a vécu ça, vous vivrez certainement d'autres expériences encore plus merveilleuses que celle-ci. Mais j'aimerais vous dire que on n'est pas là pour reproduire quoi que ce soit. Mais si je n'avais pas vécu ça, depuis, je n'ai plus jamais revécu ça. Je ne cherche pas à le revivre d'ailleurs. J'ai revécu des moments d'intense présence de Dieu, etc. Mais pas comme ça. C'était différent, particulier. C'était pour ce moment-là, ce jour-là, pour nous qui étions là. Et vraiment, on a reçu quelque chose ce jour-là. Mais j'ai réfléchi après, si j'avais dit non, si j'avais pris une autre direction, si finalement j'avais dit, ben non, si j'aime cette année, j'y vais pas, ou à telle réunion, ou à tel événement, ou à telle situation. Combien de fois nous passons à côté d'événements, de moments, que Dieu lui-même a prévus et préparés pour nous, et nous on passait à côté. Imaginez que cette femme ici, ait dit, ben non, finalement, cet homme de Dieu, bon, il est déjà venu 3-4 fois, c'est bien, maintenant, ça serait bien de le laisser à d'autres. Hein. Ben voilà l'histoire. Dans le deuxième livre des rois, s'arrêtait là. Et c'était bien, elle aurait accepté cet homme avec son serviteur pendant quelque temps, point. Elle a été déterminée. Et cela nous parle de cette détermination que nous devons avoir les uns et les autres à servir Dieu, coûte que coûte. Et à ne pas regarder éventuellement la dépense, ou ne pas regarder dans l'équilibre, dans la mesure, mais il y a parfois des situations de foi, il y a des fois des situations où c'est notre cœur qui parle, on sent que Dieu nous demande de faire quelque chose et ça part. Paraît parfois illogique, insensé, anormal. D'autres pourraient le faire, pourquoi nous? Mais Dieu sait que si on le fait, on y va. On s'engage pleinement, Dieu va nous bénir. Et on en récupérera une bénédiction extraordinaire qu'on ne retrouvera jamais dans notre vie. Et cette femme, elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Mais de tout son cœur, elle a avancé, elle a marché, elle a servi. Et là, Dieu a commencé à agir d'une certaine manière. Ce qui suit, c'est vrai, est un peu particulier. Servir Dieu est d'une grande bénédiction pour nos vies. Élisée va appeler Gehazi et il va lui demander de réfléchir un peu. C'est pas souvent qu'il réfléchissait celui-là, mais il a fait pas mal de gourdes quand on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais là, il va réfléchir un peu. Et vous allez voir sa déduction, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à cette femme pour la bénir? Nous, on envoie des cartes postales, on envoie des paquets de bonbons, on envoie un présent, Bah, eux aussi, ils vont envoyer un présent. Et Gehazi dit, elle n'a pas de fils, son mari est vieux, donc il n'y a pas de descendance, bah, elle n'a qu'à avoir un fils. Voilà ce qu'on pourrait faire pour elle. Elle n'a qu'à avoir un fils. Vous remarquez, pas une fille. Hein, ils sont peut-être pas misogynes, je ne sais pas, mais... Non, non, elle n'a qu'à avoir un fils. Et présenté comme c'est présenté, ça paraît tellement simple. Pour eux, et en tout cas même pour lui, c'est une évidence. Et dans cette période, Gehazi, il est bien. Il n'est pas trop mal, en tout cas. Et il y a une évidence qui se présente à lui. C'est là où on se rend compte que le ministère d'Élisée a imprégné cet homme. Pour lui, aujourd'hui, la foi, le miracle de Dieu, c'est simple. Ça coule comme un ruisseau. C'est pas compliqué. La foi au Dieu qui agit dans la vie des hommes et des femmes, il n'y a aucun problème. Avoir un enfant, ben, suffit de demander, hein. Puis t'en auras un. Et on comprend pourquoi Géasi, il savait que le Dieu d'Élisée, ou en tout cas que le Dieu qu'Élisée servait, était un Dieu tout-puissant. Il avait déjà vu s'accomplir plusieurs miracles. Vous allez les voir défiler ici. 5, il en avait déjà vu. La multiplication de l'huile dans les vases. Il n'y avait plus d'huile dans un pot, mais il avait dit, tu prends dans le pot le peu qui te reste et tu remplis tous les vases vides que tu peux trouver. Et alors qu'avec un tout petit peu d'huile, pendant des heures, elle a rempli la multiplication de l'huile pour payer la dette. Et puis il a vu l'eau qui remplissait les fosses, alors qu'en pleine période de sécheresse, il n'y avait pas une seule goutte d'eau qui tombait. Et Géasi, il a vu l'eau venir. Il a dit, c'est pas possible. Il n'y a aucune goutte d'eau, il n'y a pas un puits, il n'y a rien. Les fosses se sont remplies sur la parole de Dieu. Et puis il a vu ces deux ours qui sont sortis à un moment donné pour tuer les ennemis d'Élisée. Parce qu'ils l'injuriaient, ils l'insultaient, ils le maudissaient et ils envoyaient les démons sur lui. Les deux ours sont sortis, ils ont fait un ravage. Et Élisée a vu. Quoi ce Dieu ? Il savait que Dieu était vivant. Et puis les eaux du Jourdain qui se sont ouvertes lorsque, à un moment donné, ils ont frappé le manteau par terre. Et simplement en frappant le mouton par terre, les eaux se sont partagées et Géasi est passé. Il a vu Élisée et les prophètes qui étaient de l'autre côté. Géasi savait que Dieu était un Dieu puissant. Alors, que cette femme devienne enceinte et qu'elle ait un fils, c'était pas un problème pour lui. C'était d'un naturel et d'une évidence, mais alors, enfantine. Et de ce pas, Élisée, eh bien, appelle la Tsunamite et il lui dit tout simplement, eh bien, l'année prochaine, à la même époque, eh bien, tu vas embrasser un fils. Dieu va te bénir. Dieu va te combler de joie. Dieu va t'accorder des grâces et une bénédiction extraordinaire. Quelle parole ! Moi, j'aimerais bien avoir des paroles comme ça aussi. Je crois qu'on en a parfois de temps en temps, mais qu'est-ce qu'on pourrait en avoir davantage ? Ça, ce sont des paroles de Dieu. Et c'est de ce genre de paroles de Dieu dont nous avons besoin aujourd'hui. Ça, ce sont des paroles de révélation. C'est le réma. C'est la parole créatrice. La parole créatrice, la parole révélatrice qui vient de Dieu. Une parole qui indique ce que Dieu va accomplir. Une parole qui indique ce que Dieu va faire dans la vie. Et une parole qui s'accomplit. Une parole de révélation. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui de ces paroles-là. Alors ne jouons pas les faux prophètes, ni même les prophètes, parce que ça c'est grave. Et parfois on a vu des extrêmes de personnes qui commençaient à parler. Je crois qu'il nous faut simplement rechercher ces choses de la part de Dieu. Et laisser Dieu dans son intimité avec nous parler à nos cœurs, et le laisser nous former et nous qualifier jour après jour. Maintenant il y a une deuxième attitude aussi. C'est de croire en cette parole-là. Et même pour nous, aujourd'hui, en France, c'est difficile maintenant de croire à des paroles prophétiques. Soit on croit à tout, il y a n'importe quoi, soit quand il y a une parole de Dieu, on n'y croit pas parce qu'on pense que ce n'est pas pour nous, ou que ce n'est pas une parole de Dieu. Quel déséquilibre dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui. Tout cela à cause de bien des choses qui ont été bouleversées, changées, à cause d'erreurs qui ont été commises. Nous avons besoin de revenir à la vérité de la parole de Dieu. Nous avons besoin non simplement à revenir à une véritable parole directe et franche de la part de Dieu, mais nous avons besoin aussi d'apprendre et à faire confiance à celui qui reçoit de Dieu une parole véritable. Les deux sont nécessaires. Un, de retrouver des paroles véritables afin de les communiquer, de les donner et de ne pas avoir peur de faire cela. Deuxièmement, nous avons besoin de retrouver une confiance en celui ou celle qui donne la parole, en les considérant comme des paroles véritablement de Dieu. L'ennemi fera tout dans notre vie pour faire en sorte que la personne, on n'y croit pas, et qu'elle n'apporte pas ce que Dieu met sur son cœur. Et il agit dans ces deux domaines. Nous avons besoin de retrouver cette réalité, et de la vivre pleinement. Ici, nous voyons que servir Dieu, eh bien, c'est vivre avec et dans la bénédiction de Dieu. Tous ceux qui se sont un jour engagés à servir Dieu, à servir le Seigneur, ne l'ont jamais regretté. Tous ceux qui un jour ont commencé à marcher avec lui et à donner leur vie ont toujours été bénis. Ils s'en sont toujours réjouis.
J'aimerais vous dire peut-être que dans votre vie aujourd'hui, vous êtes freiné sur certaines choses, sur votre engagement, peut-être sur votre service pour Dieu, peut-être sur certaines choses que Dieu vous a demandées qui sont très précises. Mais vous n'êtes pas encore entré dans le travail que Dieu vous donnait. Pourquoi ? Non pas parce que vous réfléchissez trop, vous n'êtes pas sûr, mais parce qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas envie de lâcher, pas envie de délaisser, pas envie de mettre de côté. Tant que tu n'entres pas pleinement dans le travail pour Dieu, tu ne recevras pas pleinement la bénédiction de sa part. La bénédiction de Dieu est venue lorsque cette femme avec son mari ont fait cette chambre haute, l'ont constituée, l'ont mise en place, l'ont installée, établie, tout était prêt, tout avait été donné, tout avait été organisé, et pour eux, ils avaient béni le serviteur. Dieu les a bénis. Pas avant, maintenant, à ce moment-là. Et pour nous aujourd'hui, ça veut dire que Dieu nous bénit véritablement et avec une grande assurance. Mais quand nous faisons le pas entier de la foi, quand nous nous donnons vraiment nous-mêmes à 100%, pas quand nous en gardons une partie. Tu ne peux rien faire si tu n'es pas à 100% qui marchera. Ça marchera toujours au pourcentage dans lequel tu t'es engagé. Si tu t'engages à 100% pour quelque chose, ça marchera à 100% avec Dieu. Mais si tu t'engages à 50%, ça ne marchera qu'à 50%, donc tu seras déçu. Et la bénédiction ne viendra qu'à 50% aussi. Et ça, c'est important de comprendre ce principe biblique et spirituel. Quand Dieu veut nous bénir, et c'est vrai que c'est une démarche de foi, parce que parfois on abandonne tout, on délaisse tout, on met tout de côté. Quand on rentre vraiment dans le service de Dieu, il y a quelque chose qui est là et qu'on abandonne complètement. C'est pas évident. Mais je ne parle pas simplement du service de Dieu. Chaque chrétien doit s'abandonner à Christ pour sa vie personnelle, pour sa vie familiale, pour sa vie de couple, sa vie avec ses enfants, pour son travail. On doit apprendre chacun d'entre nous à nous abandonner entièrement à Christ. Et la bénédiction s'en découlera tout simplement. Si tu ne t'engages avec Christ dans ta vie personnelle qu'à 30%, n'espère pas récupérer plus de bénédictions. Si tu t'engages à 50% ou 70%, n'espère pas en récupérer davantage. Tu récolteras ce que tu auras. C'est biblique. Si tu sèmes avec abondance, tu récolteras avec abondance. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut que nous puissions apprendre à dépendre vraiment de lui et à semer avec une grande abondance, parce que lui détient les richesses du ciel. Et ces richesses du ciel, il veut les répandre sur notre vie avec abondance. Il ne nous est pas dit de répandre avec folie ni insouciance. Il nous est parlé de répandre et de répandre avec abondance, pour récolter avec abondance. Et si tu savais combien Dieu est capable de te bénir, si tu savais combien Dieu est capable de te donner, tout ce que tu peux même imaginer à ce moment présent, tout, faites en ce moment même, tout ce que vous pouvez imaginer que Dieu pourrait vous donner, tout ce que vous êtes en train de calculer, de penser, d'imaginer à cet instant présent, est rien à côté de ce que Dieu est capable vraiment de vous donner. C'est rien. Rien. Mais pour découvrir ça, il faut faire le pas de la foi. Et ça nous coûte, et à chacun d'entre nous. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et c'est bon. Il ne faut pas le reprendre après. Il faut continuer dans cette même direction, dans cette même lancée. Et Dieu fait. Dieu donne. Moi, je vois dans ma vie combien, quand nous faisons confiance à Dieu, mais il nous prend et il nous amène. Et un coup au Brésil, et un coup là, et un coup ailleurs. Et l'année prochaine, ça va continuer encore. Je remplis l'agenda petit à petit. Dieu nous prend et il nous met là. On n'a rien demandé. On n'a rien fait. On ne se sent pas, mais on fait confiance. Mais Seigneur, on ne peut pas, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Si tu commences à calculer, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Rien. Oui, tu calcules pour savoir où tu peux aller. Mais quand Dieu te dit, voilà, moi je te montre une direction, alors là, tu arrêtes de calculer. Et tu dis, ok, je te fais confiance. Tu veux que j'y aille? Ok, pas de problème. Tu mets tout en place pour que je puisse y aller. Dieu le fait. Et tu vois de quelle manière Dieu l'accomplit. Et c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu fait. Et depuis plusieurs années, nous marchons avec mon épouse de cette manière-là. On est parti à Tahiti, on est parti... Vous saviez combien on avait sur le compte quand on est parti à Tahiti? Il nous restait moins de 250 francs. Tout le monde nous a traités de fous. Mais pourquoi vous partez là-bas? En plus, avec un enfant, vous imaginez. Pourquoi vous partez là-bas? Et qu'est-ce que vous avez... Deux enfants, on avait Christelle, Nathan... Et non, un enfant à l'époque, un seul. Et il dit, si c'est pas possible, vous partez là à 18 000 kilomètres, ici vous arrive quelque chose. Et j'avais un contrat de travail, enfin quelqu'un m'avait fait une promesse d'embauche. J'avais reçu un fax, le fax il n'était même pas signé. Là il y avait le salaire, il y avait tout ça, ce qu'il me promettait, mais c'est vrai, j'avais rien de plus que ça. Et quand il m'avait envoyé la confirmation par fax, je pensais que ça allait être signé, etc. Non, rien, mais une conviction. Et non simplement moi, et ça c'est important quand on est dans le couple, mon épouse également, tous les deux, on avait cette conviction qu'il fallait qu'on y aille. Alors on n'a pas regardé ce qu'on avait. Quand on allait acheter les billets, on n'allait avoir plus rien. Alors on a acheté les billets et on n'a eu plus rien. Si maintenant il n'y a plus qu'à partir. Et on est parti. Et ça a été pour nous une bénédiction extraordinaire. Et on a vécu des expériences spirituelles, professionnelles, familiales, vraiment merveilleuses. Et si on avait trop calculé, on avait eu peur, on aurait absolument rien fait. Et ça, c'est notre vie de tous les jours. Tous les jours, Dieu nous demande de lui faire confiance. Je vous parle de voyage, je vous parle de travail, je vous parle... Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être des témoignages, ça peut partir avec les gens pour témoigner avec eux, pour leur parler, ça peut être aller voir votre voisin ou votre voisine, ça peut être mille et une choses différentes. Faites confiance à Dieu. Si Dieu vous demande de témoigner, vous n'osez pas le faire, eh bien vous ne verrez rien se passer. Et vous allez dire continuellement, mais Dieu fait rien, les gens ne se convertissent pas. Évidemment, il faut que tu y ailles. Si Dieu te demande d'y aller, vas-y. Et quand tu vas y aller, ben, tu vas être étonné, tu vas dire, mais c'est pas croyable. J'ai commencé à lui parler et déjà elle pleure. Et déjà elle commence à se repentir et à demander pardon et accepter Christ dans son cœur. Et Dieu connaît les cœurs des hommes et des femmes. Dieu nous demande de faire des choses. Faisons-lui. Apprenons-nous, chacun d'entre nous, à lui être soumis et à faire et à obéir à ce qu'il nous dit. Et combien nous aurons chaque jour et chaque semaine des témoignages extraordinaires à raconter. Maintenant, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas tout de recevoir une parole, mais il faut la croire, cette parole. Élisée dit à cette femme, eh bien, à cette même époque, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils, tu seras enceinte et tu auras un garçon qui va sortir là et tu vas pouvoir te réjouir avec ce garçon. Et c'est vrai que cette femme va avoir une réaction, je dirais, d'autodéfense. Oh non, 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 mon Seigneur, non, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et on comprend humainement parlant cette femme. Elle entend cette parole et son cœur peut-être crie oui, mais son intelligence et son raisonnement crient non. C'est impossible, pourquoi? Mais parce que humainement c'est impossible. Elle est vieille, son mari est vieux également. Elle sait que cette chose n'est pas possible. Elle sait que ça fait des années qu'ils ont essayé d'avoir des enfants, mais jamais ça n'a pu fonctionner. Alors elle dit, non, non, ne me trompe pas. Ne me dis pas de mensonge. Ne donne pas de l'espoir comme certains quand ils professent des paroles qui ne sont pas de Dieu. Ils professent dans l'espoir d'hommes et de femmes une espérance qui n'arrivera jamais. Dieu jugera ces choses-là également. Quand on donne de l'espérance et qu'il n'y en a pas, Dieu jugera ces choses. Et cette femme humainement, elle a vécu ça, elle était là, elle ne savait pas. Et je crois que sa réaction était normale. En tout cas, elle était humaine. Mais d'autres ont vécu ça également. Qu'est-ce qu'elle va faire, Sarah, quand l'ange lui dit « Tu vas tomber enceinte ?» Elle va même aller plus loin, ça va lui coûter cher. Elle va se moquer, elle va rire. « Moi, tomber enceinte ?» Pas moi, Sarah. Elle dit « C'est pas possible. Je suis vieille, c'est impossible que ces choses puissent arriver. » Et pourtant, Dieu va accomplir la promesse. Qu'est-ce qui est arrivé à Zacharie lorsque il est là, dans cet endroit où l'ange commence à lui parler? Il est en train d'offrir le sacrifice, il est dans le lieu très saint. Il lui dit, tu vas avoir un fils, tu vas l'appeler Jean. Il va dire qu'il n'y croit pas, il n'a pas cru aux paroles de l'ange. Et alors cet homme, tout simplement, eh bien, va se retrouver muet, il ne pourra pas parler. C'est une attitude qui dénonce un manque de foi, un manque de confiance en Dieu, un manque d'assurance. Et vous savez, trop souvent, je crois qu'on démontre cette attitude au Seigneur et nous passons à côté de grandes et de belles victoires, de grandes et de belles bénédictions. Je crois que cette attitude ne plaît pas à Dieu parce que c'est mettre en doute ça. Parole. Je vais terminer. vraiment. Cette femme, elle savait qu'elle était âgée. Elle savait que son mari était âgé. Que la situation que cet homme est en train de décrire, humainement parlant, c'est impossible. Mais quand Dieu nous donne une parole, et quand Dieu vous donnera, ou vous a peut-être déjà donné, une parole, ne perdez pas cette parole avec le doute. Servir Dieu, c'est être béni à l'avance. Et quand Dieu a décidé d'agir, ne le laissons pas et ne laissons pas notre manque de foi, notre manque de confiance, notre manque d'assurance s'interposer entre le Seigneur et nous. Mais croyons-le. Comme je le dis parfois, Dieu ne désire pas que nous croyions en lui. Mais il désire et il veut véritablement que nous puissions le croire. Lui. Et il y a une différence entre croire en lui et le croire lui. Ce qu'il dit, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir. La Bible nous dit, verset 17, cette femme devint enceinte, l'enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Dieu nous parle, Dieu se révèle. Je ne sais pas ce que Dieu a pu vous dire, je ne sais pas ce que Dieu a pu mettre dans votre cœur, ou ce qu'il va mettre. Ce que je sais, c'est que vous ne devez pas laisser passer la parole que Dieu va vous donner. Vous devez croire en cette parole, garder cette parole, et la voir s'accomplir dans votre vie. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il est bon. Et quand nous lui obéissons et que nous marchons avec lui, nous voyons alors de quelle manière il va utiliser des choses qui sembleraient pour nous inhumaines, irréalisables, qui sembleraient avoir aucune possibilité d'accomplissement. Mais on aura les uns et les autres des témoignages en disant voilà, j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai cru à la voix de Dieu et j'ai vécu la voix de Dieu. Et aujourd'hui, je peux en rendre témoignage. Alléluia. Ça, c'est pour chacun d'entre nous. Nous pouvons tous vivre cette parole parce que Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Amen. À courber nos fronts, on va prier quelques instants.